Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Puis si on jette un coup d'œil sur ce qu'on peut appeler ces phénomènes météo extrêmes, quand vous regardez la situation en Nouvelle-Écosse, c'est absolument incroyable, particulièrement au Cap-Breton, où la neige est tombée en quantité, c'est absolument renversant. Dans certains coins, on a atteint 80 cm de neige. Et dans des secteurs un peu plus montagneux, si vous voulez, on parle de 150 cm de neige. Les autorités ont dû louer de l'équipement, ont demandé l'aide, évidemment, du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral. Et il y a tellement de neige que des gens qui sont comme coincés à l'intérieur de leur maison et qu'on va tenter justement d'ouvrir les routes, c'est la priorité, pour pouvoir ensuite permettre aux gens de sortir de chez eux. Mais ça fait minimum 20 ans, 25 ans qu'on n'a pas eu des quantités de neige aussi importantes en Nouvelle-Écosse. Et puis, on revient sur la Californie très rapidement pour vous dire que au total, on a dénombré 120 glissements de terrain. Et on a ce qu'on appelle ces rivières atmosphériques, donc de la pluie torrentielle qui a frappé la ville de Los Angeles et la périphérie, Santa Monica également. Et donc, de la boue, de la pluie, glissement de terrain. Et c'est un peu inhabituel à ce moment-ci de l'année qu'il y ait des précipitations très importantes. Puis j'ajoute également les feux de forêt au Chili qui ont fait au minimum 120 morts et d'autres citoyens qui sont demeurés coincés à l'intérieur des zones forestières. Donc là-bas, c'est la chaleur, la sécheresse et cette cascade de feux de forêt. Puis il y a beaucoup d'experts qui commentent tous ces phénomènes. Évidemment, quand vous regardez le El Niño, le réchauffement, par exemple, de la température des océans, est lié à ces changements climatiques, ben ça nous amène ces cocktails qui créent des conditions extrêmement difficiles. On va voir ça toute l'année. 2023, ça a été l'année la plus chaude jamais vue. Et donc, ça va se reproduire partout dans le monde. Et il y a des experts qui disent que la planète n'est pas véritablement prête en termes d'infrastructure. Quand vous regardez la quantité de neige qui est tombée en Nouvelle-Écosse, la quantité de pluie qui est tombée en Californie, est-ce qu'on est capable d'absorber autant d'eau? Puis si je ramène ça à Montréal, il y a ce débat sur la capacité des égouts de la ville de recevoir des quantités importantes d'eau. Ce qui m'amène à vous dire, d'ailleurs, que les élus devraient revenir à la mission première d'une ville et de ses dirigeants, qui est d'assurer les services. Et ce qu'on voit malheureusement de plus en plus, ce sont des shows de boucanes pour se donner une image. Et je vais donner des exemples de ça ce matin. Prenons le cas, et je vous le dis, ça me met le feu parce que c'est la période de l'année où on reçoit les comptes de taxes. Et partout, dans toutes les villes, là, ce sont des augmentations substantielles. Et on a le discours des élus, et c'est correct, là, sur les changements climatiques, puis les mesures à prendre. Puis bon, tu sais, oui, il y a des enjeux importants, puis oui, il faut investir, et c'est pas strictement les villes qui ont la capacité financière de le faire. Mais quand je vois ce matin la ville de Montréal qui est en grande réflexion sur les comptes de dépenses, puis qui paye les bouteilles de vin, parce qu'on paye, on paye pas, je peux pas croire qu'après la commission Charbonneau, ce qu'on a vu comme pique-nique à l'hôtel de ville, qu'il y a des gens qui pensent encore que c'est un bar ouvert puis qu'on peut s'amuser aux frais des contribuables. Puis là, je veux pas non plus tomber dans le régime sec, là. On veut rendre, je disais, à Ville-Saint-Laurent, ils sont à réflexion. Ils rendent hommage à des bénévoles deux fois par année, puis on sert un verre de vin. Est-ce qu'on coupe ça? Est-ce que ça, c'est une dépense abusive? Pense pas. Mais les dépenses qui ont été faites par les gens de l'Office de consultation dans des périples à travers le monde, c'est d'un ridicule. Non seulement c'est insultant, mais c'est d'un ridicule. On n'a pas besoin d'envoyer des gens qui organisent des consultations à travers la planète. cette espèce d'idée, on ne sait pas trop d'où ça vient, qu'on est au-dessus des affaires et que l'expertise mondiale a besoin de la contribution de la ville de Montréal. Là, chez moi, là, c'est pour organiser des consultations souvent qui sont plus ou moins bidons. Là. Mais ça, c'est un autre débat. Puis je voyais en fin de semaine Dominique Olivier, l'ex-présidente du comité exécutif, qui poursuit Québécois pour 1,6 million. Premièrement, elle reconnaît que les faits sont vrais. Elle n'a pas aimé le traitement, puis elle n'a pas aimé être congédiée par la mairesse de Montréal. C'est la mairesse qui prend la décision. Vous êtes membre du comité exécutif au bon vouloir de la mairesse de Montréal. Et là, c'est la frustration. Je comprends. Mais d'aller manger des huîtres à Paris sur le bras, c'est peut-être pas ça qui va changer le budget de la ville. Mais c'est quand même un symbole qui dérange les contribuables. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, ça concerne la région de Québec. Le réseau de transport de la capitale qui a conclu un contrat de 34 000 $ pour faire l'acquisition de tasses corporatives. Encore là, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, 34 000 $ dans le but. C'est le principe. Les sociétés de transport braillent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils se plaignent parce que Québec n'est pas assez généreux et on insiste sur le transport structurant. On a des organismes qui chapeautent d'autres organismes, des dépenses inutiles, un service qui n'est pas à la hauteur des attentes. Puis après ça, on se demande pourquoi les gens laissent tomber le transport collectif. Puis là, t'arrives avec des niaiseries comme ça. Le maire de Québec lui-même trouve que ça n'a pas de bon sens, Bruno Marchand. Là, je regardais la décision de la ville d'Outremont, sérieusement, d'arrondissement Outremont. À Montréal, vous avez le droit de laisser tourner votre moteur, mettons l'hiver, 3 minutes. À Outremont, on vient d'introduire la notion de 10 secondes. 10 secondes. Puis là, puis ça, là, c'est typiquement fonctionnel. Là, j'imagine la scène. On s'assoit. Puis là, on se dit, ça serait le fun de faire un show de boucan. C'est le cas de le dire. Alors, mettons qu'on ramène ça à 10 secondes. Là, il faut enlever les exceptions, les véhicules d'urgence, des gens qui sont pris dans peut-être des bouchons de circulation, etc. Et là, on se dit, oui, mais OK, mais quand il fait très froid, est-ce qu'on le tolère? Fait que là, on va mettre ça à 0 degré jusqu'à 25. Là, vous n'avez pas le droit. Donc, en bas de zéro, vous avez le droit. Puis, en haut de 25, quand il fait bien chaud, vous avez le droit de faire tourner le moteur. Sinon, c'est 10 secondes. J'ai plein de questions. Le maire de l'arrondissement va venir nous voir, mais d'abord, ça a pris combien de temps pour élaborer ça? Qui va surveiller ça? Puis, quand on va se promener avec un chrono, on va identifier des autos, puis on va dire, oh, ça fait 15 secondes, je débarque, étiquette. Et l'étiquette, là, première infraction, ça peut aller entre 150 et 350. Et en cas de récidive, ça peut monter jusqu'à 600 $. Puis là, on dit, oui, mais ça a un impact. Ça fait partie de la lutte au changement climatique. Sérieux? C'est un peu ridicule. C'est comme tout le débat sur les fours à bois pour les pizzerias puis les bagels. Tu sais, puis là, je tomberai pas dans, disons, l'exagération de notre ami Gérard Deltel, là. Il ne s'agit pas de tuer l'industrie du bagel qui est très distinctive à Montréal. Mais on a pensé à ça, de dire que ça n'avait pas de bon sens, qu'il fallait revoir la pratique. Moi, je pense que ça fait partie de la culture montréalaise. Puis c'est pas ça qui va faire en sorte. Et quand je dis revenir à la mission première, là, c'est de gérer la ville. Vous nous chargez assez cher en taxes. On peut-tu vous demander d'avoir des trottoirs qui ont de l'allure? Tu sais, le temps perdu à élaborer des niaiseries comme ça, il y a quelque chose d'hallucinant. En parlant de bagels, The Gazette ce matin nous parle d'une certaine controverse au sujet des bagels. Il y a une promotion qui va se tenir chez Saint-Viateur Bagel, je pense que c'est jusqu'au 12 février. Et là, on vous vend un bagel où il n'y a pas de trou. Alors là, vous avez des puristes qui sont outrés, qui disent qu'un bagel, d'ailleurs le mot en yiddish bagel, ça veut dire anneau ou bracelet, donc il y a un trou. Là, il n'y en a pas. Et c'est à peu près l'équivalent de 2 bagels. Alors, c'est assez massif, là. Mais la demande est très forte. Et le propriétaire de Saint-Viateur Bagel dit que les gens veulent ça. Tu sais, les traditions puis les images, quand même, qui font que Montréal est une ville distinctive, c'est important de, je trouve, garder ça. Puis on parle des bagels, mais on pourrait parler d'un paquet d'autres événements qui font que Montréal, ou je dis événements, parce qu'il y a beaucoup d'événements à Montréal, mais il y a des endroits emblématiques. Et ça m'amène à vous parler du Stade olympique. On a annoncé hier 870 millions d'investissements. Alors, essentiellement, il faut refaire l'anneau technique et il faut refaire le toit du stade. Et on a élaboré un plan avec un consortium, avec un risque partagé, pour éviter, ce qui est toujours le cas là, dans des projets de cette nature, un dépassement des coûts. Est-ce que ça va coûter 870 millions? Peut-être, j'ai des doutes, parce que c'est toujours pareil, t'sais, on va découvrir que. Sauf que cette fois-ci, l'approche semble assez réaliste. Ça, c'est le premier constat. Et là, je vois ce matin, puis il y a tout un débat, là. Est-ce qu'on doit faire ça, 870 millions? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas démoli le stade olympique? On prétend que ça coûterait 1 milliard. 1 milliard pour démolir le stade. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Ça me paraît énorme. T'sais? Mais quand même, mettons là que c'est un des arguments. Puis ça peut pas être de dire que Taylor Swift serait venu au stade olympique. Là. C'est une belle image, mais c'est pas ça qui fait que tu investis. Et je l'ai dit souvent, Michel Labrec a fait un travail remarquable dans le parc olympique pour revitaliser puis de rendre ça plus attrayant. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais quand même, je pense que c'est un symbole à travers le monde, cette structure olympique qui a coûté la totale, qui est partie tout croche dans des chantiers où il y a eu du gaspillage, qu'il y a eu de la collusion. Québec a dû intervenir pour que ça soit à peine complété pour les Jeux olympiques. Quand on fait l'historique du stade olympique, c'est pas jojo. Et on en a mis de l'argent. Puis là, on va en remettre. Et je vois tous les commentaires ce matin, là. C'est trop cher. C'est pas... Comment on va occuper le stade à longueur d'année? Des questions qu'on va poser, évidemment, à la ministre responsable et au PDG du stade. Alain le disait tantôt, la police de London qui s'excuse auprès de la jeune femme qui a été victime d'agression. C'est une allégation. Les cinq joueurs font l'objet d'accusations. Le procès, ça va commencer dans plusieurs mois, probablement en 2025. Mais juste rappeler que la police de London avait ouvert l'enquête et avait fermé le dossier. Et quand c'est revenu à l'avant-scène de l'actualité, ils ont décidé de rouvrir le dossier. Et là, ils ont conclu. Et on n'a pas voulu donner de détails. Ça, je le savais, là. Tu sais, tu fais un point de presse quand les procédures judiciaires s'amorcent. C'est pas vrai que la police va venir raconter ce qu'ils ont trouvé. Mais ils disent avoir eu des éléments nouveaux d'information, ce qui leur permet de porter les accusations contre les cinq joueurs en question. Et aujourd'hui, la ministre Isabelle Charest va annoncer un projet de loi attendu pour améliorer la sécurité des jeunes sportifs. Et notamment, on va s'assurer, je pensais que c'était le cas, mais visiblement, ce ne l'était pas, de la vérification d'antécédents judiciaires sur toute personne qui a un rôle d'autorité avec des athlètes. Les entraîneurs adjoints, bref, tous ceux et celles qui gravitent autour. Est-ce qu'ils ont, oui ou non, des antécédents? On nous dit que personne ne pourra échapper aux vérifications. Et ce sera au moment de l'arrivée d'une personne dans un organisme, mais également, après un certain nombre d'années, je pense que c'est 3 ans, on fera d'autres vérifications. Victoriaville qui décide d'annuler le spectacle gratuit d'Éric Lapointe, décision du conseil municipal. Alors, c'est une maison d'hébergement pour femmes battues qui a dit « moi, j'ai un problème avec ça ». Qu'Éric Lapointe, qui s'est ramassé devant les tribunaux, qui a plaidé coupable pour violence conjugale, là, c'est pas ça le chef d'accusation, mais on se comprend, là. Et de dire « ben la ville, avec les taxes, parce que c'est un festival, le spectacle gratuit, ben on va payer Éric Lapointe. » Et le message aux organisateurs, c'est de dire, ben, si vous voulez avoir Éric Lapointe, faites-en un spectacle payant. Et ce qui est intéressant dans le cas d'Éric Lapointe, il y a beaucoup d'artistes qui se sont retrouvés dans des controverses, des humoristes, Julien Lacroix, on pourrait en nommer plusieurs, là, qui ont été là annulés, qui n'ont pas eu le droit de se produire, qui étaient menacés dès que leur nom apparaissait sur une page Facebook d'une maison de la culture. Tu pouvais pas, c'était interdit, puis bon. Éric Lapointe, malgré tout ça, a réussi à naviguer, ce qui est quand même assez spécial, là, à donner des spectacles, à participer à des festivals. C'était plein. Et la raison pour laquelle on l'invite, c'est qu'il remplit ses salles encore aujourd'hui. Éric Lapointe est un cas, disons, je dirais pas unique, mais presque, d'artiste impliqué dans une affaire de violence conjugale et qui réussit quand même, peut-être pas la carrière d'avant, là, mais pas loin, être capable de continuer à gagner sa vie avec le spectacle. Également, ce matin, on va parler d'intelligence artificielle. On n'arrête pas de dire qu'il faut l'encadrer. Et je lis dans la presse que on pourrait, grâce à l'intelligence artificielle, prévenir des tentatives de suicide. Et là, tu dis, OK, mais ça marche comment? On pourrait donc équiper le système de surveillance avec de l'intelligence artificielle qui viendrait comme détecter des gens qui ont des comportements peut-être inquiétants. Tu sais, des gens qui, par exemple, sont sur un quai de métro, qui bougent pas, qui sont là depuis longtemps, le métro passe, ils embarquent pas dedans, puis ils sont comme un peu en réflexion ou sont dans leur bulle. Des gens qui pourraient sembler découragés. Autrement dit, d'analyser avec l'intelligence artificielle des comportements et ça pourrait permettre éventuellement peut-être de sauver des vies. On va parler avec l'innovateur en chef du Québec ce matin parce que beaucoup de voix se font entendre pour dire c'est très bien l'intelligence, ça peut faire des choses extraordinaires, mais il y a tout le côté là, qu'on a vu avec de la propagande, des fausses informations et à quel point il y a un potentiel justement de danger. Et également, ce matin, il y a l'archevêché de Montréal qui est en cours sur l'aide médicale à mourir parce que on a dans une église installé une maison de soins palliatifs. Et dans la loi concernant les soins de fin de vie, il y a une disposition qui fait en sorte que les maisons de soins palliatifs ont l'obligation d'offrir l'aide médicale à mourir. Et là, on dit, comme c'est une église, que ce sont sur des terres qui appartiennent toujours à l'église de Montréal, on ne peut pas forcer les gens qui opèrent cette maison de soins palliatifs à aller contre la loi de Dieu. Alors là, c'est la liberté de religion et on ne peut pas l'imposer. Et je sais que c'est tout le débat là sur les soins palliatifs, les soins de fin de vie, il n'y a pas que l'aide médicale à mourir. Mais là, ça vient de prendre un virage religieux. Donc, c'est dans Le Devoir ce matin que vous pouvez lire ça.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'Essentiel de Paul Arcand.
Donc, Parc olympique, 870 millions pour revamper le stade, l'anneau, le toit, évidemment. Beaucoup de questions ce matin pour nos deux invités. La ministre du Tourisme est avec nous, Caroline Proulx, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Et Michel Labrecque, le PDG du Parc olympique, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bon, 870 millions, là. C'est clé en main, c'est réglé, ça sera pas 60, 875 ou 900 millions?
On va dans un modèle qui est exploité beaucoup en Ontario, du côté de la Saskatchewan et de BC, ça s'appelle le mode collaboratif. Ce qu'on fait, c'est qu'on partage le risque. Le gouvernement du Québec veut partager le risque avec le consortium qui a été choisi, dûment étudié. Donc, dans les profits et dans les pertes, les deux mettent les billes en jeu. Donc, c'est ce qu'on voit beaucoup à l'international. Ce que ça permet, c'est ça limite les procès en justice, ça limite les dépassements de coûts, ça fait qu'on travaille ensemble. Le parc va travailler avec Pomerleau Canam et les deux ont intérêt à respecter le prix et à respecter l'échéancier. Donc, c'est un modèle qui est vraiment bien exploité dans le reste du Canada sur 120 projets de 50 millions en mode collaboratif. Deux seulement sur 120 ont enregistré des dépassements de coûts ou encore un retard. Donc, la moyenne est très bonne. Et c'est ce vers quoi on s'en va.
Mais
donc,
vous avez-vous donné une fourchette? Je comprends que tout le monde partage le risque, là, mais de dire ça peut être 10 % de plus au final.
Il est capté dans le montant.
Il est capté, tout
les
est capté.
Les analyses de risque sont dedans, les contingences de projets sont dedans, les taux inflationnistes du ministère des Finances pour les années à venir sont dedans, les coûts de main-d'œuvre, machinerie, matériaux, tout est capté. Donc, on fait des simulations.
Les assurances,
nécessaires, c'est capté.
Mais par exemple, on voit ça souvent, là, Pomerleau peut pas arriver puis dire on vient d'ouvrir une poutre, puis on s'est aperçu que c'est pas ça qu'on pensait, puis que là, il y a des coûts additionnels.
Ils sont captés. C'est-à-dire, les risques sont établis. On sait, quand on va défaire la toiture de PVC, on a fait le prix, mais on s'est dit ça, la risque là-dessus, 2 %. Quand on va défaire l'accastillage puis le métal, oh, pas trop de risque, on met un 5. L'anneau technique, un peu plus complexe, on a regardé exactement comment il a été fait. Pour le défaire, on met une part de risque de plus. On a prévu X millions, on met 15 % de plus de ça. Donc, on capte au préalable. Donc, c'est ça qu'on faisait dans les travaux exploratoires depuis quelques mois. On capte au préalable dans le montant total qui est les coûts du contrat et les coûts du parc olympique, c'est-à-dire nos experts à nous qui suivent le dossier, on a les nôtres, nos employés, tout est capté et tout ce qui a été fait avant. Donc, le dossier d'opportunité et le dossier d'affaires sont dans ce montant-là.
Ce que je lis depuis hier, là, c'est que la structure, j'allais dire, de financement et d'exécution semble être bonne. Ce que je comprends là, des analystes qui connaissent ça mieux que moi, là, la question qui demeure, c'est... Puis c'est symbolique, puis c'est une question pas toujours rationnelle quand on parle du Stade olympique
non,
de Montréal.
Vous avez raison.
T'sais, ça devient émotif, on connaît l'histoire, oui. Puis comment c'est parti tout croche, puis bon.
Oui.
Mais en même temps, là, ce que j'entends, puis je vais essayer de traduire le mieux possible les questions, entre autres de mes collègues des sports. Là. Le Stade olympique de Montréal, on n'avait pas le choix de faire des travaux. C'était ça où on le condamnait.
Ouais. C'était une fermeture pure et simple, avec les dernières données à 20 000 déchirures, corrige-moi Michel si je me trompe, là on était d'ici un an ou deux à hiverniser. Donc ça veut dire enlever la toile, démonter la toile de l'intérieur de l'aire de jeu, hiverniser, et là vous exposez et mettez à risque l'enceinte du stade, ce qui allait à terme fermer, amener à la fermeture pure et simple du Stade olympique. C'est pas envisageable pour le gouvernement du Québec. C'est un symbole international, touristique, économique, de développement économique. C'était impossible de pouvoir aller dans cette direction-là.
Je vais prendre une image. Quand on rénove une maison, mettons que je change la toiture,
oui,
puis la charpente et tout ça. Quand je pense au stade, allez-vous modifier les sièges? Allez-vous modifier le système de son? Est-ce que ça, c'est dans le 870 millions ou c'est ailleurs, et ça va venir plus tard.
Ça va venir plus tard. On fait la première étape, là. On remplace. Puis, si on avait fait l'inverse, M. Arcand, si on avait commencé à tout faire ça, les gens diraient, écoutez, qu'est-ce que vous faites là?
C'est
Il n'y a
ridicule.
Pas de décision sur
exact.
Le toit, ça coule. Ouais. Fait que là, donc, on s'est dit, passons cette décision-là. Mais, comme on a fait pour la tour, je donne l'exemple de la tour à chaque fois. Si on avait annoncé, le parc olympique va investir 375 millions dans la tour, ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça qui a été fait. Le centre sportif a été refait, l'INSQ a été construit, la tour a été rénovée, on a fait un bâtiment de base, on a installé des jardins Sigma RH, on fait l'observatoire, on change le funiculaire. Le gouvernement du Québec, par ce geste qui indique, moi ce que je comprends comme président de société publique, c'est là on a un 5 ans, on a un PQI de 10 ans, 24-34, puis dans la continuité de ça, comme on a fait, ça va se faire étape par étape, mais on a déjà capté à la demande du gouvernement, c'est quoi les priorités, c'est quoi en analyse de valeur, qu'est-ce qui offre le plus? Sonorisation acoustique.
Ben oui, ça c'est numéro un sur la liste.
L'expérience client, comme on dit,
oui.
Là,
oui.
Ce concept qui revient souvent.
Oui.
Là. Puis je parlais avec Alain ce matin, puis des gars de sport, puis tout ça, des gens qui vont avoir des spectacles. Les nouveaux stades qui arrivent dans le monde sont équipés de loges, oui, de grandes promenades. C'est autre chose. Là. Est-ce que ça fait partie des plans à venir pour le Stade olympique de Montréal?
Partons du principe qu'on peut pas comparer le BC Place puis Toronto avec Montréal. Les structures sont complètement différentes et sachez que les investissements en continu se font du côté de Toronto et de Vancouver. Et oui, l'expérience cliente est extrêmement importante dans le développement des affaires du parc olympique. Quand on parle de la sonorisation puis de l'acoustique, bien sûr que c'est en haut de notre liste parce qu'on veut avoir des événements de tout type, où la réception de la musique, du son, arrivera pas 17 secondes en retard. C'est ce qu'on vit présentement, M. Arcand. Quand vous êtes dans le centre du stade, vous êtes en haut, puis la note est jouée, il y a 17 secondes de réverbération. Ça, avec la toiture, donc toute la notion d'acoustique va être changée. Mais au fil du temps, on fera donc les améliorations.
On va prendre les concessions alimentaires.
Oui. Hein?
Ouais. Concessions alimentaires, la loi avant, là, nous disait pas de contrat de plus que 3-5 ans.
Exact.
Là, Mme Proulx a changé la loi. On a une loi qui nous permet de faire des 10-20 ans. On a un nouveau toit, on fait un appel d'offres, on cherche quelqu'un qui va investir 5 millions, on refait toutes les concessions alimentaires, il investit puis il se rembourse capital et intérêt sur ce qu'il va vendre. Les loges, Même chose. On a un toit. On sait qu'on est parti. On dit à quelqu'un, veux-tu embarquer avec nous? Les technologies de l'information, veux-tu être le propulseur des technologies de l'information? On est reparti, là. Avec un toit pour 50 ans. Veux-tu investir avec nous? Donc, ça, c'est possible. Puis, deuxièmement, la même façon qu'on procède depuis une douzaine d'années puis depuis 10 ans de façon méthodique, appliquée, tout ça, les expériences sont déjà modélisées puis ils vont se faire dans le temps. Fait que, il y a une inquiétude, mais moi, je rassure les gens. Le gouvernement du Québec prend cette décision-là. C'est pas pour le lendemain matin aller dormir sur ses lauriers, là. C'est considéré que le stade, c'est le grand stade okay. du Québec.
Actuellement, le taux d'occupation du stade, c'est combien?
Oh, une bonne année, là, pré-pandémie, on faisait 150 jours d'occupation. Entre 120 et 180 jours d'occupation pour les auditeurs, c'est, on monte un événement comme présentement cette semaine, c'est le Salon de l'habitation. On tient le Salon de l'habitation dans le fond, pas dans l'enceinte, là, dans l'arrière-scène, et on le démonte. Fait que c'est à peu près ça. Quand il y a 20 matchs, disons, de, on va dire de football, une empreinte là, de 8 matchs dans une année à domicile, ben là, t'as 2-3 jours à chacun, 24 jours. Fait que c'est ce qu'on dit, donc 150. Ce qu'on pense surtout, c'est qu'on a 20 à 30 événements. Après l'ouverture, on passe à 50-60 et sur un cycle long, une dizaine, quinzaine d'années, on va être à 75 événements pour un emprunt de 250 jours année d'occupation.
Allez-vous convaincre les Alouettes et le FC Montréal d'aller jouer dans le stade où ils vont demeurer dans leur stade actuel?
Ben, on en a fait une société commerciale. On n'est plus la régie des installations olympiques telle que décrétée par M. Bourassa en 75. On en a fait une société commerciale. Moi, ce que je dis au parc lorsque j'ai changé la loi, je vous commande d'être une société commerciale. Donc, on veut parler à tous nos partenaires commerciaux. On est là-dedans déjà.
Okay,
et on va continuer de parler
bien clair,
avec eux.
Là, voulez-vous que les Alouettes s'installent au stade à temps plein?
Oui.
Oui.
Ils n'ont pas l'air à vouloir.
Je le sais, mais...
Mais on comprend, tu sais, ça fait 25 ans, M. Arcand, qu'on parle de la toiture. Mais... Je comprends que les gens disent... Excusez-moi, là, en bon québécois, Agnès-tu est sérieuse? On est très sérieux. On est très, très sérieux dans la valeur commerciale à travers
que,
le parc olympique.
Parce que si j'allais les voir avant, ils me disaient, le toit.
Oui,
c'est
ça.
Là, je dis, c'est parti. On peut-tu regarder ça? Qu'est-ce que tu veux comme amélioration locative, toi, propriétaire d'une équipe, pour que les spectateurs soient près des lignes, pour que tu aies des chambres pour tes joueurs puis des douches pour tes joueurs, pour que tu aies des loges. Qu'est-ce que tu veux? OK, on embarque pour combien d'années? OK. Donc, on retourne de côté. Quel est l'investissement de ton bar puis du mien? Puis on amène ça au niveau que tu veux, puis on parle affaire.
Mais à part des événements là, occasionnels de football, de baseball, il n'y aura pas de club, la NFL à Montréal, il n'y aura pas...
Oui, pas de club.
Non, je parle à temps plein, il n'y aura pas. Bon, il n'y aura pas ça. Là.
Non, mais il y a
puis
quand
les
même...
Les gens de baseball voulaient avoir un stade au centre-ville découvert parce que c'était une meilleure expérience. Puis à chaque fois qu'on leur parlait du stade olympique, ils venaient des jurons. Je comprends qu'il va y avoir un toit là, mais pour eux, c'est pas ça le baseball des temps modernes.
Mais moi, je vois plus de promoteurs d'une équipe de baseball à 1,5 milliard là, juste pour acheter l'équipe. Puis c'est quand c'est pas une demi-équipe là. Je vois pas ça dans le portrait, premièrement. Puis deuxièmement, je veux pas dire, mais on prépare le futur, on prépare l'avenir, on prépare les 50 prochaines années. Ce que j'ai dit hier, on peut-tu faire ça? On peut-tu préparer l'avenir? Conséquemment, on a eu 4 équipes de football, là, Concorde, la Manique, la Machine, les Alouettes, là, qui reviennent. Je veux dire, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'aura pas une équipe professionnelle féminine?
On en a parlé hier.
Votre collègue qui est au sport, Isabelle, elle travaille là-dessus au niveau
Canada.
Qui dit ça? Fait que donc, l'empreinte sportive des 20 prochaines années risque de changer. Le type de sport risque de changer. Les ligues américaines veulent peut-être réouvrir de nouvelles concessions, de nouvelles approches. Moi, dans le sport motorisé, il y a des approches. Dans les e-sports, il y a des nouvelles approches.
Puis il est temps que Montréal revienne la métropole du Québec sur la liste des destinations internationales, que ce soit pour tous les événements auxquels fait référence Michel et les autres grands concerts. Je sais qu'on revient beaucoup sur Taylor Swift, puis on se moque un peu de moi, mais quand même, l'image est forte. Mais je suis correct, je suis habitué, M. Arcand.
Sans Vidéotron, c'est Metallica en plein. ça peut jouer de plusieurs façons. Mais,
exact.
Mais l'autre question. On voit partout que de démolir le stade, ça aurait coûté 1 milliard.
Est-ce qu'il y a eu...
Ben, deux, j'ai entendu un, vous me dites deux.
2 milliards.
Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour vrai de dire, voici, on va démolir, voici le plan, ça va... on lance ça comme ça.
Mais on n'a jamais eu... L'intention du gouvernement du Québec n'a jamais été de démolir le stade olympique. Ça, je vais être bien clair là-dessus. Mais quand Michel et moi, on a commencé à travailler sur la toiture du stade, évidemment qu'on a... analyser de façon très granulaire cette option-là.
Mais moi, je n'en reviens pas que ça coûte 1 milliard ou 2 milliards.
Parce que c'est bloc par bloc. C'est 500 000 tonnes de béton puis d'acier. C'est 35 000 voyages de camions. C'est des zones... Quand on touche pas à l'amiante, on y touche pas, mais quand on y touche, il y a des précautions. C'est toutes les analyses. Les risques dans ce projet-là, là, c'est 30-50% des estimés initiaux. Il y a une voie de métro, la ligne verte avec deux stations. Ouais. Il y a une tour. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la tour? Qu'est-ce que ça va avoir impact sur les rues qu'on a en dessous, puis la centrale thermique qui est au bout du stationnement P5 en dessous, là, on va y cheminer. C'est tout interrelié. Il y a plus de béton en dessous qu'après. Après, on réhabilite minimalement ça. Comment? Parce que là, on se retrouve avec 200 mètres par 300 mètres par 30 mètres de profond. Ça a l'air d'une grande carrière pleine d'eau. Donc, c'est les coûts. Il y a beaucoup, beaucoup, dans les analyses qu'on avait initiales, 700 millions, porté à 1,2 milliard, 30 % de risque de plus. Grand chantier, 20 % de plus. Risque, ben on a dit au voisinage de 2 milliards avec une réhabilitation à minimum pour faire ça.
Puis un actif de 4 milliards et demi, ça fonctionne pas. Dans la logique, ça ne fonctionne pas. L'actif du parc, le parc olympique et tout ça, on est à 4 milliards, 4 milliards 1. C'est énorme, la valeur du parc.
Et les phases à venir de rajeunissement là, pour le son, c'est le budget va tourner autour de combien?
Mais en fait, déjà, avec ce qu'on appelle l'acoustique et la sonorisation, c'est vrai que pour s'inscrire dans les grandes villes, on a un devoir d'amélioration, ne serait-ce que pour la sonorisation et l'acoustique. Maintenant, vous avez vu les images, vous avez la toile extérieure et vous allez avoir une toile intérieure. Ce qui va faire en sorte de vraiment améliorer grandement l'acoustique. Comme je vous le mentionnais, maintenant, il y a 17 secondes de décalage.
La mise à niveau total, siège et tout ça, est-ce que vous avez...
C'est dans le temps, ça.
Vous n'avez pas de prise, vous n'avez pas de budget là-dessus.
On a le budget annuel, annuel du parc olympique. Sur un actif de, je vais vous dire, 4 milliards, il faut toujours calculer 1 % par année. C'est une règle du pouce, donc 40 millions. Fait 40 millions, si vous mettez ça sur 10 ans, ça fait 400 millions. Ça fait 10, 20 ans. Okay. Donc, c'est des cycles longs. On a dépensé 475 millions dans les 10 dernières années, un peu plus. C'est le rythme d'un bâtiment qui vaut 6 milliards avec la tour puis tout ça. C'est le métro de Montréal vaut 100 milliards. Si tu mets pas 1 milliard par année là-dedans pour entretenir Résidé Cathy.
Deux questions en terminant. D'abord, ça n'a rien à voir avec le stade olympique, là. La ville de Victoriaville vient d'annuler la présence d'Éric Lapointe dans un festival parce qu'il y a eu des plaintes, notamment d'une maison qui aide des femmes qui sont victimes de violences conjugales en disant on peut pas cautionner un spectacle gratuit. Qu'est-ce que la ministre du Tourisme pense de ça?
Ah ben c'est de la prérogative de la ville, c'est sa décision. Je vais vous dire honnêtement, ce matin ma revue de presse était davantage sur le stade olympique. Vous écoutez-vous à 5h30 pour savoir comment vous vous sentiez un matin avec le stade que de m'arrêter à l'histoire
d'un festival.
Lapointe.
Non, vous n'avez pas de.
Pas pour l'instant. Non, j'ai pas lu l'histoire. Je l'ai entendu là, à travers les branches, mais je ne suis pas intéressé vraiment à cette histoire-là. Pour
je
être
sais
honnête.
Que vous quittez et que c'est volontaire, me l'avez fait sentir.
C'est quitter au sens que je n'ai pas demandé de nouveau mandat de 3 ou 5 ans.
Mais je veux vous remercier puis vous féliciter parce que, je l'ai dit, c'est très émotif le stade olympique quand on en parle. Puis moi, je suis assez vieux pour avoir vu, disons, les différentes étapes. Vous avez pimpé la place, comme on dit. Vous avez revampé l'endroit. Puis je pense que le stade, mais tout ce qu'il y a dans le parc olympique, les aménagements qui ont été faits, ça a donné une nouvelle vie importante dans l'Est de Montréal, puis c'est en bonne partie grâce à vous pendant ces deux mandats-là, puis je pense que c'est important de le dire.
Ça me touche.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Michel Labrec, le PDG du stade olympique, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
On apprenait hier que l'arrondissement d'Outremont va imposer une nouvelle mesure sous peu qui va faire en sorte que les conducteurs de voitures ne pourront plus laisser tourner leur moteur plus que 10 secondes. Il y a des paramètres, il y a des véhicules où ce sera autorisé, mais essentiellement, alors qu'à Montréal, c'est 3 minutes, à Outremont, ce sera 10 secondes. Le maire de l'arrondissement est avec nous, Laurent Desbrois. Monsieur Desbrois, bonjour.
Bonjour, monsieur Arthur.
D'abord, pourriez-vous m'expliquer les grandes lignes de ce projet, là, de ce 10 secondes? Ça s'applique quand, pour qui et comment?
Ça s'applique donc pour les véhicules qui entre lorsque la température est entre 0 et 25, donc lorsqu'il fait plus froid ou trop chaud, le règlement ne s'applique pas. Et je vais juste mettre un peu en contexte ce nouveau règlement. Lorsque je suis devenu maire, j'ai mis sur pied un comité citoyen pour s'attaquer à l'urgence climatique. Il y avait deux principes qui sont ressortis des réunions de ce comité citoyen. Un, c'est de mettre des mesures qui sont faciles à faire pour les gens et qui ont un effet bénéfique. Et l'autre, c'est que chaque petit geste compte. Alors, on a implanté une série de mesures comme ça. Par exemple, vous vous souviendrez qu'on a interdit les...
Non, mais attendez, M. Desbrois, moi, je veux rester sur votre projet d'hier. Là. Je veux savoir, oui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça vise qui puis ça commence quand?
Ça vise tous les véhicules. Ici, il y a des exceptions, évidemment, les mesures d'urgence, les véhicules d'urgence, les autobus, bon, il y a des camions réfrigérés, etc. Donc, il y a une série d'exceptions, les taxis pendant l'hiver. Et ça commencerait, au printemps, lorsqu'il va faire un peu plus chaud, lorsque la température va être supérieure à zéro. Bien sûr, on va faire une campagne de sensibilisation. On a voulu lancer un message quand même assez fort pour essayer de changer les habitudes. Les gens, ils pensent pas, hein, donc c'est vraiment essayer de changer les habitudes des gens.
OK, mais attendez, là. Il fait, mettons, 5 degrés. Je suis stationné sur une rue de votre arrondissement, la rue Bernard. Le moteur tourne. Qui va venir compter les secondes?
Nous avons nous avons des inspecteurs et la sécurité publique d'Outremont qui sillonnent l'arrondissement constamment pour d'autres tâches. Donc, c'est une nouvelle tâche là, qu'ils vont avoir. Maintenant, c'est sûr qu'on fera pas la chasse aux gens qui tournent constamment. Là, c'est que je pense qu'avoir ce message, avoir ce règlement, déjà, je pense que la majorité des gens vont se conformer.
Non, mais attendez, là, vous faites un règlement puis vous mettez des amendes avec le règlement. Donc, il y a quelqu'un qui aura le mandat de faire respecter le règlement puis imposer des contraventions.
Absolument. Donc, ce sera la sécurité publique et les inspecteurs de l'arrondissement.
OK. Et là, ça veut dire qu'il va y avoir une preuve technique qui prouve que j'ai fait tourner le moteur plus que 10 secondes.
Exactement. Oui.
Il va se promener avec un chrono?
Je peux avoir un chrono pour avoir toutes sortes de mesures qui vont prendre pour effectivement pouvoir prouver que la personne roule plus que 10 secondes. Donc, ce sera... En fait, moi, personnellement, je pense que ce règlement de 10 secondes max est beaucoup plus facile à appliquer que le 3 minutes établi à...
Est-ce que ça inclut les véhicules de la ville, de l'arrondissement, les cols bleus, les véhicules donc qui se déplacent et qui appartiennent à l'arrondissement?
C'est-à-dire qu'il y a des véhicules... je dirais normaux, là, des employés de l'arrondissement, ça c'est inclus, bien sûr. Mais par contre, pour l'instant, on a décidé d'exclure les équipements lourds, des neigeuses, etc., pour des raisons d'efficacité du travail,
Moi, j'essaie juste d'être concret, là. Prenons l'exemple, là, il fait 24 degrés, il y a une camionnette, un camion léger de col bleu de l'arrondissement. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas de faire tourner le moteur plus que 10 secondes?
Ils vont le couper ils vont le couper, mais les camions de normaux, là, c'est-à-dire un pick-up, c'est inclus, mais les déneigeuses, ceux qui ramassent les poubelles, etc., ça, ce ne sont pas assujettis à ce règlement.
OK, mais parce que là, vous me perdez un peu, là. Moi, je veux juste savoir, le camion de col bleu, la camionnette, le pick-up, appelez ça comme vous voulez, là.
Oui.
Alors, si le moteur tourne plus que 10 secondes, il arrive quoi?
Ils ont la consigne de couper le moteur en bas de au-dessus de 10 secondes. Donc
est-ce que l'employé qui ferait tourner le moteur plus longtemps pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires?
écoutez, on n'est pas allé jusqu'à là. Ça sera peut-être à étudier, mais je ne pense pas aller jusqu'à là, là, effectivement. Je voudrais juste expliquer 10 secondes, si je peux me permettre, parce que c'est pourquoi on a choisi 10 secondes, d'abord pour envoyer un message fort, mais aussi parce que le ministère des Ressources naturelles du Canada nous dit qu'au-delà de 10 secondes, il vaut mieux couper son moteur si on veut réduire la consommation d'essence et l'émission de GES. Donc, ces 10 secondes, il provient de cette ressource-là.
OK. Monsieur Desbois, avec tout le respect, là, c'est un show de boucan, votre affaire. Dans le sens où, puis c'est le cas de le dire, là, dans les périodes de froid où les gens font plus tourner leur moteur, ça s'applique pas. Dans les périodes de chaleur pour la clim, ça s'applique pas. Donc, c'est entre les deux. C'est 10 secondes. Pourquoi pas à la ville? Le reste de la ville, c'est 3 minutes. Puis vous êtes, dans le fond, vous voulez envoyer un message, puis il y a un comité qui s'est réuni, il y a des règlements qui vont avec ça, sérieusement, là. Ça tient pas la route, votre affaire.
Vous pensez, c'est-à-dire, c'est votre avis, mais moi, personnellement, je pense que le règlement de 3 minutes à Montréal n'est pas applicable, donc celui-ci va être beaucoup plus. Mais aussi, il faut mettre ça en contexte. C'est-à-dire que c'est pas une mesure unique qu'on fait, là, ici, pour, comme vous dites, un cheveu de boucan. On met un ensemble de mesures ici. On a commencé avec les souffleurs à feuilles, ce que je disais au début. On a créé une rue école pour améliorer les gens qui viennent à pied. On veut lancer un programme autrement chauffe-eau vert pour aider les gens à convertir du mazout vers l'électricité. On a cette mesure des 10 secondes max. Donc, on veut réduire la situation de transit avec le viaduc Rockland qui va être reconstruit. Donc, on s'attaque à ce problème-là. Donc, c'est un ensemble. Il y aura d'autres mesures qui vont
venir. Oui, mais Monsieur Desbois, mais je peux-tu vous rappeler la mission première d'une ville? C'est-à-dire offrir des services de façon correcte, que ce soit l'entretien des rues, que ce soit l'entretien des trottoirs l'hiver. Ce sont des mandats très précis, puis ce sont des missions très précises que vous avez. Et c'est pas toujours un vif succès, on va s'entendre, là.
C'est-à-dire que effectivement, puis il y a des ressources, des responsabilités partagées là-dessus, l'arrondissement et la ville, mais nous, ça n'empêche aucunement de produire nos services. D'ailleurs, c'est ma mission première, c'est d'offrir les services aux citoyens, d'améliorer la qualité de vie. Alors, c'est sûr qu'on s'attaque à ça tous les jours.
Ça apparaît pas tout le temps. Particulièrement cet hiver, ça n'a pas été un grand succès.
Ah, mais vous savez, ça c'est un grand débat sur le financement des arrondissements de la ville de Montréal qui nous finance en dessous du taux d'inflation depuis plusieurs années et Outremont a été particulièrement affecté. Donc nous avons bien sûr des problèmes, mais nous faisons tout en notre possible pour le faire le mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a.
Je comprends, M. Desbois, mais c'est quand même extraordinaire. Les comptes de taxes des citoyens commencent à entrer. Et partout à la grandeur de l'île de Montréal, on est au-dessus de l'inflation. On est dans le 6, 7, 8 %. Puis là, vous m'expliquez qu'il vous manque de l'argent?
Oui.
Ah bon?
Oui, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est que les taxes foncières que nous payons, par exemple, à Outremont, vont à la ville-centre, ne restent pas à Outremont. Donc, nous payons 5 fois plus de revenus de nos taxes foncières vont à la ville-centre et la ville-centre nous redonne un cinquième, donc 20 % seulement.
OK. Mais M. Desbois, je vais juste terminer avec un commentaire d'une citoyenne qui m'a écrit ce matin de votre arrondissement qui me dit « Je trouve ça tellement ridicule, pour ne pas dire insignifiant, pendant que je me bats pour avoir des passages pour élèves près d'une école plus sécuritaire. » Se bat avec votre arrondissement pour que la traverse soit correcte et sécuritaire pour les enfants, puis vous allez promener des fonds avec un chrono pour savoir si ça fait 10 secondes que le moteur tourne?
Nous travaillons fort depuis 2 ans pour sécuriser les écoles et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les amendes d'ailleurs qui sont reçues restent à Outremont, donc c'est une activité qui se finance elle-même. Donc, c'est pas une question de financement là-dessus. Et justement, en parlant des écoles, il y a beaucoup de parents qui viennent de l'extérieur d'Outremont pour. Il y a 15 écoles ici à Outremont sur un territoire de 4 km². Il y a beaucoup de parents qui attendent leurs enfants qui font rouler leur moteur. Donc il y a des concentrations comme ça d'endroits où c'est facile là, de voir qui respecte le règlement. Là. Donc c'est pas contradictoire les deux là. Et les deux peuvent se faire en même temps.
Ok, merci Monsieur Desbois. Bonne journée.
Ben merci Monsieur.
Au revoir. Laurent Desbois est le maire d'Outremont et donc ça devrait entrer en vigueur au printemps. Maintenant, on a appris hier que le roi Charles III était atteint d'une forme de cancer qui n'a pas été précisée. Je vais en parler ce matin avec Marie Billon qui est journaliste, qui est bien sûr au Royaume-Uni. Marie Billon, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, qu'est-ce qu'on sait de l'état de santé du roi?
On sait qu'il est donc atteint d'une forme de cancer qui n'est pas un cancer de la prostate. Le palais l'a précisé parce qu'il s'est fait bien sûr opérer il y a quelques jours d'une hypertrophie pénine de la prostate. Et c'est lors de cette intervention que les médecins ont réalisé qu'il avait donc ce cancer. Le roi a eu son diagnostic a priori en début de semaine dernière. Mais ce qu'il ne partage pas avec les Britanniques, c'est de quel cancer il s'agit et quel est l'état d'avancement de ce cancer. Le Rishi Sunak, le Premier ministre, a dit ce matin que le cancer avait été pris assez tôt, mais le palais ne confirme pas. La seule chose que Buckingham Palace a dit, c'est que le roi va entreprendre un traitement régulier, sans dire si c'est une radiothérapie ou bien une chimiothérapie, et que ce traitement a commencé hier.
Est-ce qu'il doit cesser toute activité, réduire ses activités? Quel est l'ordre du jour pour lui?
Alors, les médecins lui ont conseillé de réduire ses activités, c'est-à-dire qu'on ne le verra pas et plus en public pendant quelques temps. En revanche, il va continuer à assurer ses devoirs constitutionnels de monarque, c'est-à-dire qu'il va continuer à rencontrer chaque semaine le Premier ministre, a priori pour l'instant en face à face, et il va aussi continuer à recevoir et à lire les red boxes, ces valises diplomatiques, ces mallettes diplomatiques qui contiennent des télégrammes du gouvernement. Ça, le roi va continuer à le faire, comme beaucoup de personnes finalement qui suivent un traitement contre un cancer. Eh bien, il continuera à travailler. La seule chose qu'il ne fera pas, c'est donc les représentations au public. C'est à la fois pour ne pas qu'on le voit fatigué, pour ne pas plus se fatiguer. Et puis, s'il a une chimiothérapie, évidemment, son taux d'immunité sera largement compromis. Et donc, il faut évidemment éviter de rencontrer tant de gens comme il le fait quand il est en visite comme ça.
Bon, évidemment, depuis hier, tout le monde spécule. Est-ce que le roi va abdiquer? Est-ce que le prince William va prendre la relève? Qu'est-ce qu'on arrive à comprendre? D'abord, des relations entre le roi, son fils et tous les scénarios qui peuvent être comme ça sur la table.
Alors écoutez, la question de l'abdication, elle est discutée uniquement en dehors du Royaume-Uni. Elle n'est pas du tout discutée ici. Ça n'est pas une question, ça n'est pas une possibilité, ça n'est pas une éventualité. Personne n'en parle ici au Royaume-Uni. Il n'y a que les médias internationaux pour le faire et je ne suis pas en reste évidemment. Mais non, ça n'est pas du tout dans la tradition de la famille britannique. Le roi a attendu 70 ans pour être roi. Il s'est révélé pendant ces quelques mois qu'il a passé à Buckingham Palace. Il est devenu populaire, il a l'air d'aimer ce qu'il fait, il a l'impression d'être plus utile que ce qu'il craignait ne pouvoir l'être avant de monter sur le trône. Donc il n'est pas question d'abdication. En revanche, bien sûr, son fils, le prince William, va l'aider peut-être plus qu'il ne l'aurait voulu, surtout en ce moment, puisqu'on sait que l'épouse du prince William, Kate, a été opérée il y a quelques jours d'une opération lourde de l'estomac, et le prince William avait dit qu'il allait prendre quelques temps pour rester à son chevet et s'occuper aussi de leurs trois enfants. William doit reprendre du service cette semaine et il va être plus sollicité peut-être qu'il ne l'aurait voulu parce qu'il est le remplaçant évident quand son père ne peut pas être là physiquement pour faire quelque chose. Mais encore une fois, il ne prend pas du tout les devoirs constitutionnels de son père.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie Billon est journaliste pour RTL et se trouve au Royaume-Uni.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons maintenant d'intelligence artificielle. On le sait, il y a des côtés extrêmement positifs et un niveau d'inquiétude sur des pratiques, que ce soit pour la désinformation, toutes ces fausses images qui circulent. Par contre, vous voyez ce matin dans la presse, semble-t-il, une forme d'application d'intelligence artificielle qui permettrait de détecter des gens qui sont suicidaires dans le métro. J'en parle avec l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois. Monsieur Sirois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, qu'est-ce que c'est que l'innovateur en chef du Québec? Comment vous pourriez définir votre poste?
Ah ben c'est gentil de poser la question. Écoutez, au Québec, on est fiers de notre culture de créativité, mais quand on se regarde puis on se compare dans le monde, ça décline. Nos entreprises développent moins de nouvelles solutions, adoptent moins les technologies, font moins de recherche et développement année après année après année depuis 20 ans. Pour le futur du Québec, faut que ça change. Le gouvernement a nommé un innovateur en chef issu d'une stratégie nationale de stimuler l'innovation. Puis je suis sur les routes et partout au Québec pour trouver des façons de faire ça de façon responsable, puis de trouver un peu de façon comment brasser la cage.
Mais pourquoi ça décline à ce point-là et si rapidement?
On se pose beaucoup la question. Je pense que nos dirigeants, dirigeantes le savent pas. Quand ça va bien, hein, la nécessité est mère de l'invention. Ça va bien au Québec. On est choyé d'être ici. Et puis, dans certaines nations, ils ont le couteau dans les dents. Ils ont mis la pédale au plancher pour se développer. Ici, ben, on s'en rend pas compte. Je pense que c'est le phénomène de la grenouille qui se fait bouillir tranquillement sans s'en rendre compte. En montrant les données, en montrant aux entreprises la situation, je pense que ça va changer.
Mais là, vous me décrivez des entrepreneurs qui manquent un peu d'envergure et un peu d'ambition.
On en a beaucoup, puis de les faire connaître, j'ai la chance d'en rencontrer partout aux quatre coins du Québec, sur la Côte-Nord, dans la Saguenay, en Gaspésie, ils sont particulièrement innovants. Eux, aux îles de la Madeleine, écoutez, eux, là, s'il y a un endroit où la nécessité est là, c'est bien ces endroits-là. Puis eux, ça fait 10 ans qu'ils investissent dans la création de nouveaux bateaux d'aluminium électrique pour arriver à augmenter leur productivité. Ils perdent les jeunes, mais ils arrivent à produire davantage. Ils ont fait toutes des chaînes d'approvisionnement, des entrepôts réfrigérés, ils ont revitalisé des fumoirs aux îles de la Madeleine. Je vous dis, il y a des entrepreneurs qui sont inspirants. Puis il faut donner ces exemples-là aux autres pour les réveiller.
Bon, parlons de l'intelligence artificielle. Je me demande comment l'État peut intervenir. On a vu, là, si on fait un parallèle avec les grands joueurs, les Google, les Facebook, les difficultés que rencontrent les gouvernements à faire respecter leur volonté, par exemple, d'aller chercher de l'argent pour compenser les pertes des médias traditionnels. Oui. Comment le gouvernement du Québec peut intervenir pour encadrer ou légiférer sur l'intelligence artificielle?
Ben oui, on n'est pas seul. Hein, au Royaume-Uni, à l'automne, les 29 plus grandes nations se sont réunies pour se dire, regardez, faut se coordonner, faut tout sortir ça en même temps. Puis c'est comme ça que ça va marcher. Au Québec, on est chanceux, on est un peu en avance, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on regarde ces choses-là, les impacts sociétaux de l'IA, avec l'Observatoire sur les impacts sociétaux. Notre grand maître, Yoshua Bengio, a déjà, lui, depuis longtemps, intégré des façons d'utiliser l'IA pour le bien de la société. On voit ça venir depuis longtemps, peut-être avant les autres. Là, toutes les nations se saisissent. L'Europe sort sa loi sur l'IA. Le président américain a sorti son décret. Donc, ça va pas être facile, mais au moins, on va être en phase avec le reste du monde.
OK, mais quand on dit légiférer, là, concrètement, ça veut dire quoi? Donnez-moi des exemples de mesures ou de ce qu'on pourrait retrouver dans un projet de loi.
Ah oui, dans plein d'autres domaines, en fait, dans tous les domaines, il y a des réglementations qui protègent les citoyens. Dans l'alimentation, ce qu'on achète à l'épicerie, on a confiance que ça a été testé, bien traité. Le building dans lequel on est, le transport, l'aviation, évidemment, les médicaments. Quand on prend des médicaments, on se pose pas la question à savoir est-ce que quelqu'un est malveillant derrière ça. Il y a toute une série de tests. C'est un peu la même chose à faire pour l'IA. Une réglementation, un encadrement pour dire, ben là, quand on fait affaire, quand on utilise une machine de l'intelligence artificielle, on est confiant qu'il n'y a pas de biais, qu'il n'y a pas de... les informations sous-jacentes vont pas nous induire en erreur, que les personnes qui l'utilisent derrière sont pas là pour nous manipuler, que si on fait affaire, par exemple, à une intelligence artificielle, à un robot, ben qu'on nous avertit, hein, qu'on nous le dise, attention. Et si on ne veut pas faire affaire avec un robot, qu'on ait le droit de demander de parler à un humain, par exemple. C'est le genre de choses à mettre en place dans une réglementation, une loi.
Mais en même temps, ça m'apparaît tellement énorme. Tout ce qui circule, les exemples récents, j'ai parlé souvent à M. Bengio, les exemples qu'on voit de Taylor Swift qui est reproduit dans des images pornographiques qui sont partagées par 25, 40 millions de personnes à la fois, des faux événements qu'on présente, les fausses informations. Est-ce que... Puis je comprends qu'il y a tout un côté positif aussi à l'intelligence artificielle.
Oui, merci. Faut pas l'oublier.
Non, mais
je me dis, du suicide. Hein,
c'est un exemple de pouvoir détecter des gens qui vont pas bien dans une station de métro. Mais vraiment, est-ce que les États sont pas, malheureusement, trop petits pour se battre contre ce genre de technologie?
Ben là, la question, c'est comme si, bon, il y a des criminels qui sont super bien organisés. Est-ce qu'on n'est pas trop petits pour faire face à eux? Non, tu sais, il faut quand même le faire.
La mafia ne meurt jamais.
Ouais, mais il faut quand même le faire. Il faut quand même dire au Québec, comme partout dans le monde, ben qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas, mettre les balises, c'est quoi les principes à respecter, puis de faire en sorte que les gens puissent avoir le plus confiance possible. Puis oui, il y aura toujours des malfaiteurs, puis il y aura toujours des nations voyous comme monsieur Benjo les nomme, qui vont abuser puis ou qui vont essayer de faire toutes sortes de choses de manipulation, mais ça, mais quand même, il faut dire ici qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qu'on veut qui soit fait pour protéger les citoyens, puis qu'est-ce qu'on veut qui soit développé. Parce que là, les lois, ça fait un bout, mais là, il y a les outils. Par exemple, en cybersécurité, ça fait des années que des menaces sont là. Ben maintenant, on a des outils. On installe des antivirus, des antipourriels. On a plein de façons.
Mais en même temps, là, ce matin, j'ai une étude qui montre que les entreprises sont mal protégées au Québec, investissent pas beaucoup, sont encore hyper vulnérables. Pourtant, là, s'il y a quelque chose qui est concret puis que les exemples se multiplient, c'est bien ça, les cyberattaques.
Oui. Et là, ça amène le point de l'éducation, de la formation. Dans le rapport, c'est un des éléments importants parce que quand on n'en est pas conscient, on s'en occupe pas. Quand on réalise pas qu'est-ce qui se passe, on s'en occupe pas. On est inconscient de ça. Donc, l'aspect de former les dirigeants pour comprendre qu'est-ce qui est en jeu, comme les exemples de cybersécurité, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme implication négative. Ensuite, de savoir quoi faire parce que les dirigeants, les travailleurs, travailleuses, ils me disent, Monsieur Sirois, je comprends, là, mais je fais quoi, moi, là? Donc là, il faut être capable d'avoir des réponses à ça. Puis ça, c'est une culture, une littératie qu'on n'a pas encore.
On va l'avoir un jour.
Bien, on n'a pas le choix parce que ça ne va pas aller en diminuant la vitesse.
Pensez-vous que l'intelligence artificielle va être capable de détecter l'intelligence artificielle qui est pilotée par des nations,
Pistes. C'est une des pistes.
On va se servir de ça pour savoir ce qui est vrai et faux.
C'est absolument essentiel. En cybersécurité, ça a été le cas. L'intelligence artificielle, maintenant, c'est des robots qui arrivent de façon pas mal plus sophistiquée à trouver les failles des systèmes, à s'infiltrer dans les réseaux informatiques, à trouver des façons de créer des supercheries et tout. Puis, c'est des intelligences artificielles qui sont mises dans l'armée du bon côté pour les détecter, les voir, à boucher les trous. C'est la même chose.
Okay.
Puis, l'intelligence artificielle aussi pour générer des données. Par exemple, on se dit, dans le secteur de la santé, on veut développer des nouveaux médicaments, mieux traiter les gens, mais pour ça, il faut grâce à l'intelligence artificielle, mais ça, il faut les données. Les gens ont peur de partager des données. L'intelligence artificielle permet de créer des données synthétiques où on peut arriver à qui nous aide à développer ces nouveaux médicaments, ces nouveaux traitements-là, sans avoir besoin des informations des patients.
Merci d'être venu ce matin, M. Sirois.
Merci beaucoup.
Luc Sirois est l'innovateur en chef du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons maintenant des votes qui ont été pris sur l'entente de principe entre Québec et les syndicats du monde de l'éducation. Ça a été particulièrement serré à la FAE, on l'a vu. Donc, les profs divisés, on est d'accord pour les augmentations de salaire, mais on s'entend pas sur le reste, vraiment. Mélanie Hubert est avec nous, c'est la présidente donc de la FAE. Madame Hubert, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Si on résume là, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les profs ont dit oui pour l'argent, là, c'est correct, on prend l'argent, mais pour le reste, ce que vous avez négocié, ça vient pas changer vraiment ma vie comme prof dans une classe.
C'est difficile de faire la part des choses parce que le vote n'a pas été pris séparément. L'entente était dans un tout, donc on peut pas dire là si certains ont dit oui à une chose ou à l'autre parce que ça a été présenté dans un tout. Il y a eu un seul vote sur l'ensemble de l'œuvre, si je peux dire. Mais vous avez raison sur une chose, les critiques sont en ce moment ciblées plus sur certains contenus de l'entente qui visent plus les attentes que les membres avaient par rapport à ce qui se passerait dans la classe et l'aide qu'ils espéraient obtenir de par la nouvelle entente. Ça, vous avez raison.
OK. Dites-moi, à part l'argent, là, qu'est-ce que les profs ont gagné pour améliorer leurs conditions là, concrètement dans les classes?
Dans les classes, ben d'abord, une des demandes était le droit de faire du télétravail pendant des journées pédagogiques et pendant le temps de nature personnelle. Ça, c'est réglé. On pourra là procéder dans ce sens-là. Une autre chose qui a été gagnée, et pour le bienfait des élèves aussi, je pense, on avait beaucoup parlé des classes d'accueil, des services aux élèves issus de l'immigration dans certains centres de services scolaires. C'est une structure qui n'existe pas. C'est peut-être moins évident à Montréal parce qu'il y en a partout sur l'île, mais ailleurs en région, puis même dans la région de Québec. Donc, dans notre convention collective, dans la prochaine, il y aura des dispositions qui vont forcer les centres de services à se doter de protocoles d'accueil, d'évaluer les compétences en français français et en maths des élèves pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins, ouvrir des classes d'accueil. On a aussi prévu des mécanismes pour faciliter l'ouverture de classes d'accueil là où il n'y en a pas en ce moment.
OK, mais qu'est-ce qu'un prof qui vous écoute ce matin, là, qui est, je ne sais pas, en quatrième année, qui a, je sais pas, 8-9 élèves avec des plans d'intervention, là, qu'est-ce qui va changer dans sa vie?
Ben, dans la composition de la classe, dans les classes, particulièrement dans les centres de service où s'il n'y avait pas de service pour les élèves issus de l'immigration, les profs nous disaient, en plus de mes élèves en difficulté, ceux qu'il faut adapter le matériel et ainsi de suite, j'ai aussi à composer avec des élèves qui ne parlent pas français et pour lesquels on mise sur l'immersion. Donc, il y a déjà des éléments qui vont pouvoir alléger par les services d'accueil et de francisation, qui vont pouvoir alléger.
Mais dans les faits, là, c'est comme une période de transition, là. C'est pas grand-chose, là.
Ben, ce sera déjà ça. Et au niveau de la composition de la classe, bien que le mécanisme ait soulevé plusieurs difficultés puis les gens aient émis des doutes, ce qu'il faut comprendre du mécanisme de composition de la classe, d'abord, le gouvernement ne voulait pas du tout reconnaître ça au départ dans les ententes. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on réussisse à faire admettre le concept. Et ce qui est prévu, c'est des budgets dégressifs. On a beaucoup entendu qu'il n'y aurait pas de service à moins d'eux, mais c'est aussi prévu des budgets dégressifs. Donc, si l'objectif, c'est d'amener des services en descendant tant qu'il y a de l'argent, puis on disait si c'est impossible de donner des services parce qu'on est dans un contexte de pénurie, et ça, on peut pas le nier, là, il y aurait des primes pour minimalement s'assurer que l'argent est dépensé retourne aux profs. Mais l'objectif du mécanisme, c'était quand même de prévoir un ajout de services dans les classes.
Je comprends, mais dans les faits, d'abord, je peux pas faire apparaître des profs, je peux pas faire apparaître des orthophonistes, je peux pas faire apparaître des spécialistes qui vont aider, je peux pas multiplier à l'infini l'aide à la classe. Je veux dire, il y a une limite parce qu'il y a pas assez de main-d'œuvre. Ça, vous êtes d'accord avec ça?
La pénurie de main-d'œuvre entre
les profs. Dans le fond, je paye les profs pour accepter de rester à peu près au même niveau qu'ils sont, puis j'espère qu'ils vont pas trop chialer.
C'est pas l'objectif du mécanisme. Le mécanisme, c'était vraiment de prévoir des automatismes.
Non, mais la conclusion, c'est un peu ça. Je vous paye mieux. Je peux pas vous dépanner tout de suite. J'espère pouvoir le faire. Mais en attendant, je vous compense financièrement.
L'objectif demeurait d'avoir des services dans les classes. Puis il y aura un comité de suivi parce que c'est aussi ça l'objectif. C'est d'avoir un comité qui pourra suivre ça puis avoir des discussions.
Je comprends que ça va venir, mais ça viendra pas rapidement. C'est ça que je veux dire.
C'est ce que les profs nous ont dit aussi. Ils espéraient des solutions plus concrètes et plus immédiates à leurs mots. C'est ça, je pense, qui a été mentionné par le plus de membres qui ont critiqué notamment ce mécanisme-là récemment.
Aller en grève, pas de fonds de grève, c'est une bonne idée, ça?
C'est une décision qui a été prise par les membres, puis c'est une discussion qui refait la... Pour nous, c'est l'idée de les cotisations spéciales que ça prendrait pour monter un fonds de grève. On a invité les membres depuis des années, puis encore cette fois-ci, à se doter eux-mêmes d'un fonds de grève que s'ils ne servent pas, tant mieux, ça fait un coussin pour toutes sortes d'autres projets personnels, alors que si l'argent dort dans des coffres des syndicats, et on a vu comment les gens sont critiques aussi par rapport au budget des syndicats, si on avait des sommes astronomiques qui dorment dans des coffres, on se le ferait aussi reprocher, mais là, les membres, les règles des syndicats, c'est les membres qui les votent.
Oui, mais d'autres syndicats qui ont des fonds de grève, puis ça n'a pas l'air à soulever d'enjeux tant que ça, là.
Ça dépend comment ça a été débattu, mais à la FAE, une des particularités, c'est qu'on ne représente que des profs. Donc, quand on part en conflit de travail, il n'y a aucun autre groupe qui n'est pas en grève qui peut continuer à remplir le fonds. Et pour un groupe de 66 000 personnes comme le nôtre, des compensations financières, là, ça prendrait des montants astronomiques qui seraient vidés dans le temps de le dire.
OK. Votre syndicat, donc, a voté pour une grève générale illimitée. Vous êtes parti en grève. Ça a duré 22 jours. Pas de fonds de grève, donc des pertes de revenus. Encore, comme on dit, les talons de paye qui entraient au début janvier, c'était le beau zéro qui était indiqué, là. Qu'est-ce que vous dites à vos membres, là, puis vous l'avez entendu, qui disent, hey, moi, j'ai perdu tout cet argent-là pour ça. Puis les autres ont 6, 7, 8 jours de grève. Est-ce que la FAE a finalement fait la job pour les autres qui ont moins perdu que vos membres?
Pour être très franche, je pense que la grève des profs de la FAE a permis des avancées sur les demandes qu'on avait, qui n'auraient peut-être pas été possibles autrement, mais on ne le saura jamais. Vous comprenez l'histoire, on ne pourra pas la réécrire. Mais on est arrivé en grève avec des demandes qui avaient des fins de non-recevoir. Puis au terme de ça, on a réussi quand même à faire inscrire
mais
des choses.
Mais les autres profs syndiqués ailleurs vont bénéficier des mêmes choses, en gros.
C'est sûr que dans l'entente, je ne peux pas témoigner de l'ensemble des contenus parce qu'on ne les a pas vus et ils ne nous ont pas été présentés, bien entendu. Mais assurément, l'entente qui est sur la table, même si on nous dit qu'elle se ressemble, cette entente-là C'est une entente qu'on a vue évoluer pendant notre négociation. C'est une entente qui répondait aux priorités de la FAE. Et ça, il n'y a pas à en douter.
Est-ce que c'est une erreur de ne pas faire partie du Front commun?
C'est facile avec du recul de se poser
plein
de questions.
Non, mais quand on fait les analyses après, là.
Moi, ce qu'on a entendu beaucoup pendant l'automne, c'est des gens qui nous disent, on parle d'éducation, on parle de nous. Puis, on entendait nos membres nous dire, arrêtez juste de nous parler d'augmentation de salaire puis de retraite, c'est pas de ça qu'on veut parler. Le fait de ne pas avoir été dans le Front commun sans dénigrer aucunement les travailleurs, travailleuses qui y sont, c'est pas du tout mon intention. On a pu parler d'éducation, notamment parce qu'on n'avait pas d'obligation de tenir compte d'un ensemble de groupes, d'avoir à faire valoir l'ensemble des gens qu'on représente. C'est l'avantage du syndicalisme autonome, c'est de pouvoir parler des choses qui nous concernent, mais ça a aussi d'autres inconvénients qu'on peut observer puis se poser des questions. Mais ça a été le choix qui a été fait.
On a beaucoup parlé de la démocratie syndicale, là, mais expliquez-moi une chose. Si les profs sont si motivés par leurs conditions de travail, et pas juste les salaires, là, par tout ce qui, je dirais, tout ce qu'on retrouve dans une semaine de travail pour un enseignant, là, puis qui en ont ras-le-bol, puis qui considèrent qu'on les considère pas assez, pourquoi est-ce qu'ils vont pas voter plus que ça?
Je pense que les membres sont d'abord en survie. Les gens nous disent...
Si ma job est en jeu, ma paye, mes conditions de travail, puis je suis écœuré, je vous jure que je vais aller voter.
Je vous comprends, puis c'est ce qu'on souhaite.
Mais c'est pas ça qui se passe.
Les gens ont... Il y a des questions qu'on pourrait poser aux membres eux-mêmes parce que je peux pas y répondre. Moi, j'étais de celles qui allaient à leurs assemblées générales.
Mais quand même, vous connaissez le milieu. Comment ça se fait qu'ils vont pas plus voter que ça sur des... On dit que c'est l'enjeu. C'était une des négociations les plus importantes des dernières années.
C'est une excellente question, puis ça va probablement faire partie des questions qu'on devra poser dans nos bilans, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est tout le débat qu'il y a eu, parce que on le sait, là, que les gens ont échangé, critiqué, communiqué énormément. On espère que les gens vont s'intéresser plus à ce qui se passe. Puis ceux qui ont critiqué les règles, ces règles-là, elles ont été adoptées à un moment donné par des membres aussi.
Oui, mais si je connais les stratégies, là, t'sais, l'adoption de l'heure du jour, ça prend 1h30. Il y a du monde qui se tanne pour toutes sortes de raisons. Ils travaillent le lendemain. Ça fait partie aussi de garder les purs et durs dans la place pour être bien certain que le vote va passer du bord qu'on souhaite.
Honnêtement, la façon que moi j'ai toujours travaillé, mais je peux pas témoigner de tout le monde, mais on a une préoccupation importante sur ce que les membres ont à dire, M. Arcan.
J'ai une dernière question.
Oui.
Le premier ministre et le ministre de l'Éducation et la présidente du Conseil du Trésor ont tous répété à différents moments durant la négociation qu'ils souhaitaient avoir plus de souplesse, plus de flexibilité avec l'ensemble des syndicats, mais en éducation aussi. Qu'est-ce que vous avez donné au gouvernement?
Les ententes locales prévoyaient des processus d'affectation à la rentrée qui étaient très variables d'un endroit à l'autre et c'est probablement une des choses qui ont été cédées le plus difficilement, mais qui a été cédée, on va le reconnaître. À la rentrée prochaine, les affectations vont être devancées. Il y aura un mécanisme qui devrait permettre que plus de gens soient mis en poste rapidement à la rentrée. On verra les effets de tout ça et si ça aura un effet concret sur la pénurie.
OK. Puis est-ce que, juste pour comprendre ou compléter cette question-là, est-ce que ça veut dire que des profs plus expérimentés, avec plus d'ancienneté, peuvent être affectés ou seront affectés à des classes plus difficiles?
Ce qui a été prévu, c'est plutôt avec les nouvelles permanences que le ministre de l'Éducation souhaitait créer, une façon de penser des tâches plus équitables. C'est plus comme ça que ça a été phrasé là, dans l'entente.
OK, mais en pratique, est-ce qu'on va retrouver des jeunes profs avec les classes les plus dures ou si ça va être un mix, comment ça va se passer?
Les tâches devraient être équitables, c'est ça le principe de base.
Devraient.
C'est ça les directions qui confectionnent les tâches aussi, hein, faut le dire. Là. C'est pas juste un travail syndical, ça.
Merci d'être venu ce matin.
Ça m'a fait plaisir, M.
Mélanie Hubert est la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.